Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, en ce début d'émission, je vais vous parler de deux romans qui se situent dans des banlieues, enfin, le premier, une ville de l'Ouest avec des cités, beaucoup de cités. Ce roman s'appelle « La petite Gauloise » de Jérôme Leroy, et il est paru il y a peu de temps à la Manufacture de Livres. Il va nous entraîner dans un futur si proche que l'on se demande si ce n'est pas aujourd'hui. Le deuxième roman, là, clairement dans la banlieue, c'est une réédition, initialement parue à la série Noire, et c'est un roman qui date de 1991. Il avait totalement disparu des rayons. L'auteur en est Jean-Hugo Pell. Le roman s'appelle Zone. Attention, Zone, Z-A-U-N-E. Et les problèmes qu'il évoque sont encore tellement actuels que cela pourrait se passer bien aujourd'hui.
Et il est paru à l'archipel Poche.
Qui s'appelle donc ?
Archipoche.
Bravo ! Donc la banlieue, c'est un endroit souvent investi dans le roman noir. Il n'y a pas à réfléchir longtemps pour comprendre que cela va de soi. C'est un endroit où l'on retrouve des marges, des marginaux, des délinquants, des dealers. Normal, n'est-ce pas ? Ce sont dans les banlieues que sont relégués, rejetés, pourrait-on même dire, les plus pauvres d'entre nous, éjectés des centres-villes. C'est aussi là qu'atterrissent, contraints et forcés, les émigrés, les migrants, hors zone, si l'on peut dire. C'est aussi dans les banlieues que l'on va retrouver les victimes du système, les écorchés vifs, les paumés. Bref, pour le roman noir, depuis des années, avant même que l'on en parle dans les médias, c'est un terrain d'observation, d'exploration, un décor, pourrait-on dire, évident pour le genre littéraire qui aime à fouiller dans les poubelles de notre société. Donc, je reviens au premier roman, La petite Gauloise. On est demain, après-demain, aujourd'hui, le bloc patriotique est au pouvoir. Un avatar du Front National, vous l'aurez compris, surtout si l'on a lu les deux excellents précédents romans de Jérôme Leroy, qui étaient parus à la série Noire. Le premier s'appelle Le Bloc, le deuxième L'Ange Gardien. Dans La petite Gauloise, tout commence par une bavure. Un flic descendu méchamment par un policier municipal. Faut dire, Mokran Megalati, la victime, a fait franchement une tête d'arabe. Et puis, à cette heure, la police municipale, elle est maintenant équipée d'armes lourdes. On ne fait pas de sécurité sans casser du basané. L'histoire peut commencer, balançant habilement entre l'avant cet événement et l'après. Avant, on suit Mokhtan particulièrement, qui était flic dans les renseignements, et dans une cité, il était pas loin de démanteler une cellule terroriste. Après, la police fouille le quartier, fait des descentes dans tous les immeubles, dans toutes les caves. Mais elle semble toujours avoir un temps de retard sur l'équipe, la cellule, on va dire, du combattant et de sa bien-aimée, la petite Gauloise, qui, je cite l'auteur, n'en a rien à foutre de rien. Elle dit que le monde est laid, qu'il ne l'intéresse pas. Eh ben oui, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, dirait Rimbaud. C'est l'écrivain, le poète préféré de la petite Gauloise. Cause de quoi tout ça ? À cause du lycée qu'elle fréquente, une usine à futur chômeur, ou futur extrémiste, d'un bord à l'autre. Justement, au moment où la menace terroriste rôde, un prof de français, Flavien Dubourg, organise une rencontre avec Alizé Lavaux, un écrivain, une femme, c'est dur de dire une écrivaine, et puis évidemment, le prof veut la faire rencontrer ses élèves. Juste qui sont pas forcément très intéressés. C'est le début de la fin. Ou, devrais-je dire, vu la construction du roman, la fin du début. Je vous laisse découvrir l'histoire pour plutôt vous parler du ton choisi par Jérôme Leroy. Une narration cynique, à l'humour corrosif et très noir. La plume de l'écrivain lamine tout ce qui bouge. Ses personnages en premier lieu, le prof, frustré sexuel qui bande mou en pensant à Alizé, elle-même auteur névrosé frustré. Les flics, les radicalisés, ceux qui vont le devenir, les lycéens sans avenir, l'avenir radieux. L'écrivain s'en donne à cœur joie. En narrateur omniscient, il se cite lui-même, qui, en démiurge démoniaque, tire les ficelles et dirige les destins de chacun. Et si mon crâne n'avait pas été descendu par un bas du front? Peut-être, oui, tout aurait été différent. Le prof et l'écrivain seraient partis main dans la main pour une chevauchée fantastique. Les barbus seraient convaincus par des petites gauloises qu'il vaut mieux faire l'amour que la guerre. Là, les temps sont différents. Et la réalité est tout autre. Avant, pour ce livre, on aurait parlé d'un roman d'anticipation. Maintenant, on aime employer le terme de dystopie pour ces récits qui nous racontent une société pas très loin de la nôtre, mais en faillite. En gros, les lendemains désenchantés. Mais c'est bien évidemment d'aujourd'hui dont nous parle Jérôme Leroy. Sous l'humour, la charge est sévère. Et la cible de l'écrivain, ce ne sont pas ses personnages. C'est bel et bien nos institutions, à commencer par l'éducation nationale qui s'en prend vraiment plein la tête. On n'oubliera pas que Jérôme Leroy fut professeur et qu'il sait ce dont il parle. Donc c'est un roman qui s'appelle « La petite Gauloise » et qui est aux éditions de la Manufacture de Livres. Voilà, le roman de Jean-Hugo Pell, que j'ai évoqué au tout début, se passe 30 ans plus tôt, hein, 91, bon allez, on ne fait pas dans le détail, c'est à peu près 30 ans plus tôt. Zaune, je répète Z-A-U-N, c'est une splendide rousse. Et son frère n'ont pas beaucoup profité de l'école de la République dans les banlieues où il végète. Nanar, c'est le frangin, il se pique, se drogue quoi, et la ligne est connerie. Alors, quand il disparaît et que la jolie rousse trouve 1 kilo de cam et un revolver dans la chambre du frère, elle part à sa recherche. Mais elle est dans la cité, dans la banlieue et ses codes, ses loubards, ses trafiquants. Il fait pas bon se balader toute seule dans certains quartiers. Je cite Jean-Hugo Pell. À peine 5 heures qu'elle est partie à la recherche de Nanar, et elle a aux trousses un flic au regard de prédateur, des truands obsédés sexuels et les malades mentaux de la zone. Pas mal. Elle va donc se retourner vers les seuls qui peuvent l'aider, les éducateurs du centre social. Et alors là, vogue la galère pour 24 heures de course-poursuite, de jeux de dupes entre truands, flics pourraves et les 4 paumés. Donc les 4 sont Zaune, son frère Nanar, Vignetti et Delamar, les 2 éducateurs. La nuit s'avère très très longue. C'est un roman à la fois très daté, pas de téléphone portable bien évidemment. On y trouve des Erwin Gordini, des bleus, les mobs mythiques. Mais c'est aussi un récit qui n'a absolument pas vieilli. D'abord, parce que la mosaïque de personnages que va croiser Zaune dans ses cités, on les retrouve encore. Les petits dealers, les petits gays caïds, qui dès leur plus jeune âge ont vite compris qu'on gagnait beaucoup plus de fric à dealer un petit peu de dope ou d'herbe que de suivre un CAP de serrurier ou de métallurgiste. Et puis il y a les gros bras, les truands, les flics qui en croquent plus ou moins, et les émigrés de tous horizons, ici plutôt venus d'Asie. Les seuls qui sont en voie d'extinction, me semble-t-il, à l'heure actuelle, ce sont les animateurs de centres culturels. Vous savez ce qu'on appelait les MJC, il n'y en a plus tellement des MJC. En gros, tout simplement, parce que les crédits alloués à ce type d'endroit, qui sauvaient d'ailleurs pas mal de jeunes à l'époque, sont envolés. On préfère les mettre maintenant...
Envolés à la baisse.
Oui, on préfère les mettre maintenant dans les polices municipales. Voir d'ailleurs le roman précédent. La grande qualité de Zaune, le roman de Jean-Hugo Pell, c'est son style. Un style, à l'époque, très cinématographique. Avec gros plans, travelling avant, plan séquence. Et puis, il y a cette course-poursuite au milieu du récit. Une 15aine de pages où, à bord d'une polo, donc une polo c'était une petite voiture, hein, on n'en voit plus maintenant, et une polo complètement pourrave en plus, nos 4 rats de banlieue tentent d'échapper à de nombreux poursuivants. On voit d'ailleurs que l'écrivain travaillait alors pour l'industrie cinématographique. La scène est un modèle du genre. Rien n'a envié aux Américains, avec quand même un côté décalé bien fantouchouillard qui sied particulièrement à l'ambiance locale. Et puis il y a ce rythme qu'on retrouve même dans les derniers romans de Jean-Hugo Pell, qui ne s'essouffle jamais jusqu'au dénouement, dont on ne soufflera mot bien entendu. C'est vraiment à découvrir de nouveau ou à le découvrir pour la première fois. Et puisque c'est un poche, on vous fait le tout pour 6,80€, vraiment, c'est donné. Voilà, donc on va écouter un petit peu de musique. Et puisque j'ai parlé de banlieue et de grandes cités et de grands immeubles, que va-t-on écouter?
Eh ben, c'est toi qui as proposé. Donc nous allons écouter Dans mon HLM de Renaud. C'est pas tout jeune non plus.
Eh oui, ça date aussi de du siècle dernier.
Dans mon HLM, y'a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent, le pinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême. Mon HLM est la montre du huitième. Le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cat dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus loggia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats, parce que naturellement.
Et voilà, donc après Renaud, je vous avais dit vers la fin de la précédente émission que je parlerais d'un roman roumain. C'est le moment.
Roumain,
oui. C'est donc le moment d'évoquer le roman de Bogdan Teodorescu, intitulé Le dictateur qui ne voulait pas mourir. Il est traduit par Jean-Luc Couriol aux éditions Incul. Alors le roman se passe de nos jours, c'est pas précisé, donc, aux environs de nos jours, dans une Roumanie.
Aux environs de maintenant, quoi.
Aux environs de maintenant, voilà, dans une Roumanie à la fois réaliste et fantasmée. En exergue cette phrase. Le troisième mandat avait été le plus terrible. Après ça, tout était laid de soi. Il était devenu un dictateur. Ce dictateur, on l'appelle toujours Monsieur le Président. Enfin, ceux qui le voient encore, car il vit désormais reclus dans la serre de son palais. Il est au pouvoir depuis plus de 50 ans. Il est très vieux, très très vieux. Il est seul, fatigué. Il n'a confiance en personne, même pas en Hyacinthe Popescu, son plus proche collaborateur, et en fait la seule personne qu'il côtoie. Mais il ne veut ni céder sa place, ni mourir. Alors que va faire ce bon dictateur?
Oui, bon. J'adore, c'est un oxymore, c'est ça, le
voilà,
bon dictateur.
Je sais que bon et dictateur, cela ne va pas ensemble. Mais en fait, dans le fond, du moins au départ, il n'a pas l'air si méchant. Alors ce bon dictateur, enfin on va dire ce dictateur, il va construire dans le plus grand secret une machine spatio-temporelle, dont on ne saura rien, afin de faire revenir dans le monde d'aujourd'hui l'un des grands personnages de l'histoire roumaine. Très bizarre idée, qui en cache sûrement une autre, vous l'aurez deviné quand je vous ai dit qu'il veut ni céder sa place ni mourir. Et comme c'est un dictateur éclairé, là encore, on peut juger des mots, comme c'est un dictateur éclairé, il va demander, et ça c'est pas dans la première partie du roman, il va demander à toutes les autorités morales et religieuses et scientifiques du pays, et même à des historiens, qui sont les mieux placés d'ailleurs, pour approuver son choix de Michel le Brave. C'est donc Michel le Brave qui l'entend faire revenir de nos jours. Bon, alors évidemment, je vois de l'autre côté du micro, enfin du haut-parleur, certains auditeurs se dire, mais qui
alors,
sait
si tu vois des auditeurs de l'autre côté du micro, tu formes, nous sommes à la radio.
Voilà, qui se disent, ces auditeurs, mais qui c'est Michel le Brave? Faut dire que nous ne sommes pas particulièrement au courant de l'histoire de la Roumanie, et du coup, l'éditrice a rajouté en fin de volume un petit memento sur tous les personnages historiques célèbres roumains qui vont apparaître dans le roman. Que des hommes, cela va de soi. Michel le Brave, donc, puisque c'est lui dont il va être question surtout, c'est un prince de Valachie, ou de Valachie, on va dire, 1558-1601. C'est lui qui a fait l'union des peuplades roumaines, le premier, la Moldavie, la Valachie donc, et la plus fameuse, la Transylvanie. Bien sûr, pour que le roman ait un sens, l'expérience va foirer complètement. Mais pas forcément comme vous l'imaginez. Ensuite, tout, le roman compris, va partir dans une dérive délirante complètement baroque. Il faut dire qu'à l'époque de Michel le Brave, le supplice à la mode, disons la façon de faire payer les méchants, c'était le pal. Une façon comme une autre de punir ses adversaires, mais au XXIe siècle, cela fait quand même un peu tâche, même face à un char d'assaut. Alors le roman est assez drôle, on sourit souvent, mais le tragique n'est pas loin, car le dictateur sous ses airs débonnaires en est vraiment un, le dictateur. Vous l'aurez compris, c'est une fable poétique aussi d'ailleurs, poétique, politique, allégorique. Il y a la partie purement roumaine, où l'homme d'État cherche comment faire que son pays soit reconnu universellement comme un grand pays. C'est vrai que la Roumanie, c'est tout petit, donc c'est pas évident. Et ce, quels que soient les moyens. Et il y a ensuite la partie plus universelle sur le pouvoir, sur l'abus de pouvoir. Un petit extrait du tout début du livre pour vous nous donner une idée. Pour rester au sommet, il faut toujours avoir le sentiment favorable de la masse et il faut en payer le prix. Il ne faut jamais prendre ce qui semble être à portée de main. Il ne faut pas faire ce qui semble extrêmement simple à faire. Il ne faut pas jouir des fruits du pouvoir, même s'il semble être posé devant vous comme les pommes de Bénuc. Il ne faut en prendre aucun. Tous ces fruits sont empoisonnés. Les masses les voient et si elles s'aperçoivent qu'il en manque, elles se révoltent contre vous. En revanche, il reste le pouvoir pur. Ce pouvoir que personne ne voit quand il n'est pas à l'intérieur du système. Ce pouvoir qui ne génère pas de bénéfices, mais de la peur. Le pouvoir de bouleverser les destins, de couper les hommes d'eux-mêmes, d'offrir à chaque être humain son prix, et de le déterminer à se comporter selon ce prix. Et un petit peu plus loin. Ce ne sont pas les villas, ni les comptes en banque, ni les yachts, ou les dames bon chic bon genre qui donnent leur dimension au pouvoir, mais la capacité à manœuvrer les leviers du système social. Notre président actuel pourrait presque signer ces lignes. Dans le roman, il y a aussi quelques personnages secondaires qui se succèdent. Chacun, enfin pour qu'on corroborer ça, chacun de ces personnages cherche à profiter du petit pouvoir qu'il détient. Ce pouvoir, il le détient des mains même du dictateur. Et la veulerie est déclinée sous une multitude de formes qui font évidemment sourire, bien qu'elles soient totalement effrayantes. C'est un très court roman, au ton vraiment inhabituel, je disais baroque, mais ça l'est vraiment, un roman qui fait à la fois sourire et réfléchir, ce qui, somme toute, n'est pas si mal.
On va répéter peut-être quand même
le dictateur qui ne voulait pas mourir, de Bogdan Teodorescu.
Et c'est donc aux éditions Agulo. Tu nous donnes pas le titre en VO, je suppose.
Non.
Non, je ne pense pas.
Ben, écoutez, d'autre part,
on va se retrouver. Je pense que c'est en caractères qui sont même illisibles, si je ne m'abuse.
Oh ben non, ça s'appelle Dasik Park. Donc en fait, c'est le nom de l'endroit où vit le dictateur.
Voilà, donc on vous donne rendez-vous dans quelques minutes.